RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, on discute, on débat avec les grandes gueules, Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Mehdi Guézard. On discute, on débat du durcissement, c'est ce qui va se passer à partir du 1er juillet. Des règles d'indemnisation chômage, c'est à la fois pour faire des économies et à la fois pour pousser les chômeurs à retrouver un emploi plus rapidement. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, une bonne mesure ou pas? Oui pour Mehdi et Olivier, non pour Bruno et Barbara. C'est Nado qui va en parler avec nous. Nado qui est conseillère France Travail, justement. Bonjour Nado.
Bonjour les GG.
Alors, est-ce que c'est une bonne initiative ou pas?
Absolument pas, absolument pas. C'est même catastrophique. On a une nouvelle réforme qui est entrée en vigueur en 2019. Cette réforme devait permettre de ramener les gens vers l'emploi. Il faut savoir que c'était initialement pour les très éloignés de l'emploi, et les très éloignés de l'emploi ne bénéficient plus de l'indemnité chômage. La plupart sont au RSA. C'était aussi prévu pour renflouer les comptes de l'UNEDIC, chose oui. pour lesquelles on a été en excédent sur ces années. Et cet argent va être réinjecté pour la création de France Travail. Hein. Donc, initialement, coûtera 15 milliards de mémoire. Donc, en fait, non, en fait, on renfloue les caisses de l'UNEDIC pour que chaque gouvernement mette sa patte, crée une nouvelle entité. Alors, c'était pour l'emploi, demain, aujourd'hui, c'est France Travail, et puis après, demain, ça sera autre chose. Et tout ça sur le dos des demandeurs d'emploi qui vivent vraiment et qui traversent une précarité terrible.
Comment vous expliquez, vous qui travaillez à France Travail, que la France a un problème avec ce chômage massif? Même en période de croissance, certes, il baisse, mais il reste plus élevé que chez nos voisins comme l'Allemagne.
Alors, l'explication, elle pourrait paraître simple. Aujourd'hui, on a effectivement des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Mais quand on regarde en profondeur ces offres d'emploi, ce sont des emplois précaires qui sont mal payés. La plupart sont au SMIC avec des horaires découpés, des contrats 20 heures hebdo, 10 heures hebdo. Et quand on regarde bien la quantité d'offres, c'est souvent des métiers précaires tels que, bon, enfin, quand je dis précaires, toute proportion gardée. Hein,
c'est pas mieux d'avoir un métier même précaire que de rester au chômage?
Alors, je ne dis pas que c'est pas mieux. Bien sûr qu'il faut travailler, mais dans ces cas-là, il ne faut pas non plus. Il fut un temps avant la réforme de 2019, les personnes qui travaillaient, qui avaient des emplois précaires, bénéficiaient d'un complément d'assurance chômage, ce qui permettait de maintenir un train de vie correct. Aujourd'hui, avec la réforme de 2019 et j'imagine celle qui va entrer en vigueur très prochainement, on a de moins en moins de compléments d'assurance chômage, c'est-à-dire que on a un plafond à ne pas dépasser. Et selon le plafond qu'on obtient en salaire brut, hein, puisque c'est toujours calculé sur le salaire brut, il n'y a pas de complément. Donc on a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui se déplacent avec leur propre véhicule, qui, aujourd'hui, vu le coût de l'essence, vu l'inflation,
voilà,
etc.
Nado a raison, quand tu prends un emploi, 20 heures par semaine, ou même 25 heures par semaine, ou même 30 heures par semaine, et que tu as un emploi du temps découpé, donc que tu peux éventuellement revenir chez toi, tu vas prendre ta voiture, l'essence à 2 euros, et pour gagner au final un petit SMIC. Mais c'est pas ça, c'est que les conditions d'emploi, elles vont pas conduire les gens. Je t'ai pas dit qu'il vaut mieux rester chômeur. Je dis, est-ce que tu vas avoir les moyens même de mettre de l'essence dans ta voiture? Donc tu ne gagnes pas ta vie. Tu travailles uniquement pour mettre de l'essence dans ta voiture et acheter ta nourriture et à peine peut-être même pas payer ton loyer. Comment tu veux que les gens, ils aient envie d'aller travailler dans ces conditions?
C'est incroyable.
C'est l'emploi qui ne va pas.
Excuse-moi Barbara, mais tu sais qu'en 2024, il faut plus avoir envie. C'est une obligation de travailler. Non mais je sais pas dans quel monde tu vis, Barbara. Non mais une obligation pour tout être humain normalement constitué.
Moi je fais influenceuse.
Non mais
qui travaille pour toi.
C'est incroyable.
Mais les gens ils ont envie de travailler.
Mais on est dans un monde.
Mais il y a ceux qui connaissent le boulot.
On est dans un monde
où les gens majoritairement
les gens ont envie. Mais t'as pas envie. Tu es obligé de te nourrir, de travailler.
Mais je suis d'accord avec toi. Mehdi, il doit y avoir 5% des chômeurs qui n'ont pas envie de travailler.
Non, on sait pas
mais
ce que ça veut dire.
Il y a 5% des chômeurs qui n'ont pas envie de travailler, à peine plus.
Mais Barbara, c'est,
les autres, ils essaieraient.
C'est pas un critère. Barbara, le critère de l'envie n'est pas un critère. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, qui travaillent, préfèrent ne pas travailler.
C'est normal, mais moi-même, le premier, je préférais être à
Acapulco. Tu ne travailles pas parce que tu as envie de travailler. Tu travailles parce qu'il faut payer ton loyer, nourrir tes enfants.
Non, je crois pas. Alors là,
majoritairement, les Français travaillent. Enfin, je sais pas, mais dans majoritairement, les Français, quand tu les questionnes, ils vont dire moi, je préférais.
C'est là qu'on a un désaccord, et encore une fois, c'est un désaccord, à mon avis, vous ne mesurez pas l'importance, en France en particulier, de l'idée du sens dans le travail. Encore une fois, je renvoie à l'ouvrage majeur de Philippe Diribarne, La logique de l'honneur, etc. Où il explique vraiment à quel point c'est profondément ancré et historiquement ancré.
On les achète.
Le fait que les Français veulent donner un sens à leur travail.
Je n'ai
pas dit un sens au sens vers le bien.
Pas en même temps.
Quel pote t'es avec ?
Arrêtez, parce que là on comprend plus rien. Vous parlez à quatre. Barbara était en train de discuter. Laissez-la finir et puis après vous répondrez.
Les Français veulent du sens dans leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire un travail humanitaire, une mission d'intérêt général. C'est pas ça. Ils veulent que ça ait un sens pour eux. Donc, bien entendu, on est d'accord. Il peut y avoir des métiers au cours de ta vie. Tu vas faire des métiers où ça n'a pas de sens. On est d'accord. Mais à un moment donné, dans la totalité de leur travail sur le temps d'une vie, ils voudraient au moins que la moitié de leur temps de travail sur leur vie est un métier dans lequel ils se sont investis et ou dans lequel ça a eu un sens pour eux.
Soit rémunérateur.
Que ce soit rémunérateur. C'est pas juste gagner sa vie, c'est aussi que ça ait un peu de sens, que tu aies envie de te lever le matin. Donc moi je suis navrée, le travail a de moins en moins de sens.
Ah bon.
Et c'est pas que les petits travaux précaires, je vais te dire, même le métier de prof, il a de moins en moins
de sens. En attendant d'avoir un
travail. Moi je me mets pas. Moi je suis revenue à l'éducation. Mais je suis revenue à l'éducation nationale, j'aurais très bien pu faire une rupture conventionnelle et me retrouver au chômage. Je l'ai pas fait, je suis revenue, même si je considère que mon métier a de moins en moins de sens. Oui.
Alors,
j'y suis revenue parce que ça a un sens de travailler.
Je voudrais reposer une
question. Mais je suis désolée, tu peux pas prendre un boulot qui gagne mal et où tu vas mettre 2 euros le carburant.
Je voudrais vous poser une question, puisque vous parlez avec franchise. Comment vous repérez justement ceux qui, aujourd'hui, vous le voyez peut-être, abusent du système, c'est-à-dire restent à la maison?
Non, non, ça, c'est sûr.
Comment est-ce que vous les repérez, ceux-là, Nado, alors?
Alors, on les repère assez facilement, je dirais, parce qu'il y a quand même un suivi. Alors voilà, il y a des convocations, il y a des suivis. On repère la personne qui, bien sûr, annule ses rendez-vous régulièrement. Voilà, mais j'avoue que c'est quand même assez difficile parce que nous avons quand même une charge de portefeuille qui est très très importante.
Vous suivez combien de vous en tant que conseillère, vous suivez combien de personnes?
Alors aujourd'hui, on est des conseillers référents indemnisation, donc on a en moyenne sur l'indemnisation, je prononcerai là-dessus, on a en moyenne entre 800 et 1000 demandeurs d'emploi selon les sites, selon les régions et les métropoles. Un conseiller placement qui accompagne donc le demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi, ça va de 1000 à 1500. Donc c'est
le suivi personnalisé, c'est moyen, quoi.
C'est totalement moyen.
Selon une étude, il y a un tiers. Alors déjà, ça veut dire quand même que la majorité des chômeurs cherchent du boulot, donc c'est pas une majorité qui discute de rien, mais il y a quand même un tiers des gens qui sont au chômage qui ne recherchent pas un emploi, c'est pas rien, un tiers.
Il y en a donc deux tiers qui cherchent.
Sachant qu'encore une fois, ce système repose sur la solidarité, je rappelle à Barbara le principe, c'est comme les retraites, c'est ceux qui travaillent qui financent ceux qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont en retraite, soit parce qu'ils sont au chômage. Pour que ce système soit tenable, il faut que ceux qui travaillent, qui payent beaucoup d'impôts, d'URSSAF, de charges, et l'impression de ne pas se faire enfumer à la fin.
Oui, or, quand ils seront un jour au chômage, ils toucheront le chômage.
Oui, je ne pense pas, parce que les gens qui travaillent beaucoup, en général, ils font tout pour ne pas y être. Mais
le chômeur est un glandu.
Pas du tout. Je pense qu'il y a un vrai problème du chômage des seniors, ça c'est vrai. Après, les gens qui sont à 25 ans au chômage aujourd'hui, oui, ça m'interpelle.
Alors
qu'à 25 ans au chômage, effectivement, tu ne feras pas le boulot que tu avais rêvé de faire quand tu étais en fac de sociaux, mais tu as du boulot et tu peux quand même gagner.
Je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, qu'on pourrait durcir à la limite les indemnités ou la question du suivi, pas la peine là de refaire une autre loi.
D'accord.
Mais on aurait pu effectivement graduer, dire un jeune qui n'a pas de formation, qui refuse qu'on lui fasse ses formations, qui est toujours au chômage alors qu'il pourrait se former, on peut être un peu plus dur avec lui et surtout appeler le France Travail, à davantage les suivre. Mais je suis désolée, quand t'as passé 45 ans, t'as énormément de mal à te reformer.
On est d'accord.
Et que là, on te tape sur la tête, alors que t'as le crédit à payer, t'as les enfants à l'école. Et bien là, on te tape sur la tête en te disant que t'es une feignasse. Non,
merci,
ça va pas.
Merci à Nado de ce témoignage. Merci Nado.
Macron dit le contraire, parce qu'il est clair sur tout le monde.
Merci d'avoir été avec nous,
merci,
Nado.
Bonne journée.
Nado, conseillère France Travail dans le Tarn. On va aller du côté de Lyon. Avec la métropole lyonnaise, avec Valérie qui, elle, est en recherche d'emploi et qui a la cinquantaine. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je ne suis pas du côté de Lyon, je suis dans les Deux-Sèvres.
Ah bon, d'accord. Okay. À quel endroit dans les Deux-Sèvres?
À côté de Niort.
D'accord. S'il nous donne l'occasion, tiens, Niort, passer un petit coucou à Johnny Blanc.
À une heure et demie de La Rochelle.
D'accord. Alors Valérie, vous êtes en recherche d'emploi?
Oui, alors voilà, j'ai travaillé toute ma vie.
Ouais.
J'ai commencé à travailler à 17 ans. J'ai eu mon premier emploi. J'ai travaillé 25 ans dans la même boîte.
Oui.
Et ensuite, j'ai pris ce que je trouvais parce que mes parents m'ont toujours appris à travailler. C'est dans mon ADN. C'est impossible de rester à la maison. Donc, je prenais des contrats de 6 mois, 2 mois. Ça marchait jusqu'au mois d'octobre de cette année.
Vous faisiez quoi? Dans quel domaine, excusez-moi?
Je suis tombée au chômage. Et là, grosse catastrophe, parce que je me suis retrouvée avec 900 euros d'indemnité chômage, alors que j'ai 750 euros de charges fixes.
D'accord.
Vous imaginez ce qui reste.
Vous cherchez dans quel domaine d'activité, Valérie, du coup?
Alors, justement, comme je vous dis, comme je veux absolument travailler, normalement, c'est en secrétariat comptable. Mmh. Mais je cherche aussi en secrétariat administratif. Et j'ai travaillé aussi en tant que téléconseillère dans les mutuelles.
Vous avez quel âge, Valérie?
50.
51 ans. Mmh.
Vous pensez que votre âge est un frein au fait de retrouver un emploi?
Ah oui, c'est un gros frein.
On vous le fait savoir?
Oui. Les employeurs me font savoir. Et la deuxième chose, le gros problème que j'ai, c'est que je vis en pleine campagne. J'ai pas de bus. Obligatoirement, il faut prendre la voiture.
Voilà.
Et si je veux travailler, eh bien, il faut que j'aille minimum à 30-40 km de chez moi.
Voilà, donc l'essence dans la voiture. Donc
est-ce que vous
ne
pouvez pas vous rapprocher des lieux de travail,
non,
des lieux d'activité?
J'ai acheté ma maison, je ne vais pas bouger.
Voilà, elle a acheté sa maison, elle n'a peut-être même pas fini de payer le crédit.
Ah, on peut la vendre.
Voilà, exactement. Ah. Ma maison, je l'ai depuis 17 ans.
Bah oui, vous avez quand même le droit de vouloir vivre là où vous vivez.
Voilà.
Donc, ah, bah non, parce que M. Macron, il a dit qu'il traversait la rue.
Alors, attention. Quand je cherche du travail, je ne suis pas une feignasse, comme je vous dis, je veux vraiment travailler. Je passe quasiment 10 demandes d'emploi par jour.
Ah oui.
Parce que du travail, il y en a.
Oui.
On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, surtout dans mon secteur.
Mais qu'est-ce qui est le frein? Qu'est-ce qu'on vous dit en fait? Pourquoi à un moment donné, est-ce que d'ailleurs vous avez une explication? Parce que parfois je sais qu'on n'a pas d'explication lorsque finalement on obtient un refus. Mais est-ce que vous avez quand même des explications? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors moi je rappelle quand on refuse un entretien.
Ouais.
Pour connaître la raison.
Le motif, ouais.
Le motif.
Et
très souvent la réponse qu'on nous dit c'est eh ben oui, vous habitez à 30 km de Niort. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas moyen? Pardon, alors, je sais que Barbara, il ne faut jamais déménager, mais pense que beaucoup de Français, parce que c'est aussi la vie, on est parfois obligé de changer de déménager, de changer de département. Est-ce que vous ne pourriez pas vous rapprocher de Niort, même si vous êtes très attaché à votre maison?
Si je me rapproche de Niort, je vais payer plus d'impôts.
Parce que si vous ne pouvez plus payer votre maison à loyer.
Comment?
Le loyer n'est pas le même, même si vous êtes propriétaire, mais en termes de loyer. Oui, non, mais en termes de loyer, c'est pas la même chose. Enfin, en termes de charges, c'est pas la même chose. Si vous vendez votre maison et si vous achetez à Niort, ce que vous perdez en essence, c'est compensé par rapport à votre habitation.
Olivier et Mehdi veulent à la limite louer votre maison puis vivez dans un studio.
C'est logique.
Mais sauf que Niort c'est plus cher de habiter à Dame.
C'est ce que je dis.
Ah oui.
Donc tu connais pas les gens qui ont déménagé pour un boulot, toi jamais.
Si je connais dans ma famille.
Alors attendez, laissez Valérie répondre.
Si tu habites en ville, tu payes plus cher ton habitation qu'en campagne.
Je sais pas où vous habitez.
Laissez Valérie répondre.
Où j'habite, je paye en taxe foncière 240 euros. Si je vais sur Niort, j'en ai pour plus de 2400 euros.
Ah. Ben voilà.
Ben voilà. Donc tu crois qu'elle en vit?
Donc les 30 km de carburant qu'elle dépense
pour le travail. J'ai 300 euros pour payer le prêt de ma maison. Si je vais sur Niort, louer une maison ou un appartement, c'est 900 euros.
En fait, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien compris que vous étiez pas une feignante et je dis pas du tout ça, d'accord ? Vous avez bossé depuis 17 ans, je ne dis surtout pas ça. Mais à un moment, quand on est dans une situation, et je vous le dis, madame, quand on est dans une situation de recherche d'emploi, on ne peut pas cocher toutes les cases de nos souhaits. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, on ne peut pas.
Non, mais parle pas pour un CDI, c'est des CDD ou des contrats précaires. Qui ne va pas changer de vie, qui ne va pas changer pour 6 mois.
Laisse-moi juste finir. De toute façon, vous voulez tout faire pour qu'elle reste au chômage.
Mais elle a dit tout à l'heure, la dame.
Alors, allez-y, Valérie.
Je ne cherche pas à rester au chômage.
Bah oui,
c'est Bruno Poncet.
Non, mais alors, je prends des contrats par des mecs avec des mains manucurées. Restez tranquille, les mecs, mettez les mains dans la graisse un peu une fois dans votre vie.
Attendez, allez-y. Laissez parler Valérie.
Laissez
parler Valérie.
On n'a pas le temps de faire les tatouages.
Nia, c'est la ville des mutuelles.
Oui, oui.
Il y a plein de mutuelles. Je postule régulièrement. Vous savez quel est le problème ? Parce que j'ai travaillé dans plusieurs mutuelles. La Massif, Mutavie, Weddelp, j'ai plusieurs. Seulement, c'était des contrats, quand j'ai travaillé, des contrats de 6 mois.
Voilà.
Seulement, quand on postule dans les mutuelles, ils demandent une expérience de 2 ans.
Quand
Là, je
poste de
secrétaire.
Ah, on a un souci avec la ligne de Valérie. Mais voilà,
elle a que des petites. Non, mais elle a des petits contrats de 6 mois. Tu veux qu'elle déménage pas alors qu'elle a que des contrats de 6 mois.
On n'a pas dit
ça. Bah oui, mais non, mais
Valérie,
quand même.
Valérie, merci.
Nous, on essaie de trouver des solutions.
Vous faites des raccourcis.
Vous préférez qu'elle reste au chômage.
Non, elle te répond, c'est pas nous. Elle te répond, elle te dit j'ai des contrats de 6 mois. Pourquoi veux-tu qu'elle déménage?
Vous parlez uniquement, vous êtes pas sûr.
Après, peux-tu vivre dans une caravane si vous voulez.
C'est une mauvaise foi.
Le mot travail.
Alors, est-ce qu'on durcit les règles d'indemnisation chômage, oui ou non? On va regarder si ça a évolué. Et je remercie Valérie d'avoir été avec nous. Alors oui ou non, résultat final, on était à non 55-45 là tout à l'heure. On va voir si pendant le quart d'heure de discussion qui a passé, ça a évolué ou pas avec le témoignage de Valérie et de Nadeau.
Ah bah pareil.
Non, ça n'a pas bougé, donc pas de durcissement.
On aurait pu gagner un peu, mais c'est la manucure.
À 55.
Ce mépris qu'il a eu.
Mais oui, tout d'un coup.
Un mépris de classe.
Dans un instant, les internats, est-ce que c'est la solution anti-délinquance? On va revoir cette séquence hier du Premier ministre et du garde des Sceaux à Nice avec des jeunes qui se marrent. Qui rigolent, qui sont pas contents d'être là, qui le disent ouvertement. On va en reparler et discuter des internats avec vous.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On discute, on débat avec les grandes gueules, Mehdi Guézard, Bruno Poncet, Barbara Lefebvre. On va débattre des internats. Est-ce que c'est la solution anti-délinquance ?
RMC, les grandes gueules.
Vous n'avez pas oublié la semaine dernière ce qui s'est passé du côté de Thierry Châtillon et le Premier ministre qui a prononcé son discours sur la violence des mineurs. Et du discours, il fallait passer aux actes. Donc hier, visite du lycée du Parc Impérial à Nice, en compagnie du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en compagnie du maire de Nice, Christian Estrosi. Il s'agissait de regarder comment se mettait en place l'expérimentation d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Alors, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que pour ces jeunes, c'est les parents qui les ont poussés à y aller. Ce qui a donné lieu à une séquence, comment pourrait-on dire, un peu baroque hier entre le chef du gouvernement et ces jeunes.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non, c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Qui veut témoigner, vas-y.
Ma mère, elle m'a forcé, c'est tout.
Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer?
Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
D'accord.
En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il n'y a rien.
Toi, comment ça s'est fait pour toi ici?
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien, et je vois que c'est pas bien là.
Ça a pas démarré encore, ça commence ce matin.
Ah mais je sais pas, je vois que c'est pas bien.
Voilà, alors Barbara est affligée.
Non, je suis pas affligée des gamins.
Non,
gamins,
bien sûr, si vous voulez, de la situation.
Je suis pas affligée des gamins, on se doute bien. Enfin, bonjour le niveau, je suis affligée. D'abord, moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit... On a tellement honte de certains jeunes qui ont honte de ces jeunes-là parce que ça donne une tellement mauvaise image. Moi, je suis outrée de l'attitude des adultes. Madame Agresti Roubache et Monsieur Dupond-Moretti qui se bidonnent, qui trouvent ça tellement drôle.
C'est drôle.
Heureusement que le Premier ministre, à un moment, au début, il rigole un peu, puis après, je crois qu'il commence à comprendre que c'est n'importe quoi Et à un moment, Gabriel Attal reprend un peu le leadership. Et là, tout d'un coup, M. Dupond-Moretti agresse Roubache, il rigole plus du tout. Mais au début, ça a l'air tellement marrant. Excusez-moi, je vais être très très méchante. Ça a l'air tellement exotique pour eux. Moi, je suis désolée. Ces jeunes-là, la façon dont ça a été filmé, dont on leur tend le micro pour qu'ils montrent cette espèce de nonchalance, désinvolte, à la limite de l'insolence et de la vulgarité, ça fait rire les beaux costumes et les belles robes de Paris, n'est-ce pas ? Mais moi, je suis désolée. Ils donnent d'abord une mauvaise image des jeunes, ces jeunes-là. Il faudrait au contraire leur expliquer que c'est pas comme ça qu'on se tient devant le Premier ministre. Mais au lieu de ça, on cultive cette espèce, l'autre qui fait des gestes, à qui se tient le menton, genre tout juste ils font pas les machins de Jules là. Moi, je suis effarée de l'attitude des adultes à ce moment-là. Pas des jeunes, de l'attitude des adultes.
Le tutoiement,
on les tutoie. Les gamins, vous voient. Et puis, on laisse les gamins parler. Et surtout, cette espèce de ricanement des adultes qui, en réalité, ne connaissent pas ces jeunes. Parce que ces jeunes-là, ils ont envie, sans doute, en fait, au fond d'eux, je pense qu'ils n'ont pas envie d'être dans cette image-là caricaturale. Ils ont peut-être envie qu'on les recadre. Je pense que leurs parents ont envie aussi. Je préciserai quand même que tous ces jeunes-là vont être recadrés sur les frais, aux frais du contribuable. Hein, parce que tout ça, c'est payé par le contribuable. Donc, il n'y a pas de problème. Ils n'ont déjà pas tellement envie d'être là. Et en plus, moi, je trouve que voilà, l'ambiance qui était pas agréable. J'apprécie beaucoup que M. Attal, à un moment donné, ait arrêté lui-même de sourire et les ait un peu recadrés, parce que je pense qu'il sentait quand même que c'était pas très bon pour les caméras.
La question, c'était pourtant une opération de com', parce qu'on apprend de la bouche même du Premier ministre que 50 000 places d'internat sont vides aujourd'hui en France. Donc l'idée de ce déplacement à Nice, c'est de dire, regardez, il y a des internats, c'est sur la base du volontariat, les parents, allez-y. Et alors, est-ce qu'effectivement, cette opération de com' va donner et inciter des parents à placer leur enfant dans ces internats? C'est la question qu'on se demande. Parce que les gamins, ils savent pas bien ce qu'ils font, on ne nous explique pas.
Ils ont l'air déjà de bien rigoler.
On a un garde des Sceaux qui rigole. On a un garde des Sceaux d'ailleurs qui est quand même, là où c'était, à mon avis, le vrai problème politique, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on a un garde des Sceaux qui n'est pas en phase avec le Premier ministre.
Et
on a un garde des Sceaux qui a réformé le code pénal des mineurs il y a 2 ans et qui ne voulait pas lever l'excuse de minorité.
Exactement.
Et maintenant, 2 ans après, on a un Premier ministre qui nous explique l'excuse de minorité, il faudrait peut-être quand même revoir, ça ne correspond plus.
Y réfléchir.
Non, Olivier, pourquoi il n'y a pas de Béloubet là
et Gabriel Attal a le même problème avec Nicole Béloubet, c'est-à-dire Gabriel Attal veut faire des classes de double niveau. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. Mais Nicole Béloubet ne veut pas. Donc elle n'appelle pas ça double niveau, elle appelle ça différemment, je ne sais plus, elle a trouvé un autre terme. Donc en fait, on a un Premier ministre qui a des ministres qui ne veulent pas appliquer précisément les consignes. Donc comment expliquer ensuite à des gamins qu'il faut respecter l'autorité et donner du sens à tout ça?
Moi, je ne capte pas trop, parce qu'en fait, là, tu vas voir des gamins qui ont peut-être des problèmes de comportement à l'école ou peut-être même des problèmes de notes, et tu vas avec le garde des Sceaux. Mais il manquait que Darmanin. Pourquoi tu vas pas avec Béloubet? Parce qu'en fait, on parle d'éducation, là. On parle pas de répression. On parle pas de police et de justice. Moi, je capte pas. Puis après, moi, j'entends ce que dit Barbin. Mais quand moi, je vois, j'ai regardé le reportage entier. Quand tu vois l'attitude d'Attal, son attitude physique, cette façon de se tenir et tout. Enfin, t'es Premier ministre ou t'es là au milieu pour essayer de faire le beau? Moi, je suis hyper surpris quand même. Ce côté un peu viriliste de, vous savez, les jeunes et tout. Enfin, déjà, les jeunes, il les connaît pas. Barbin l'a dit. D'ailleurs, il l'a lu lui-même un jour. Ces jeunes-là, ils n'ont jamais traversé l'école alsacienne et toutes les écoles où il a pu mettre les pieds un jour, lui. Donc en fait, il arrive, pour lui, c'est destination en terre inconnue. Là, il ne sait pas où il tombe. Et au lieu de briefer les gamins, de dire, avant, voilà, vous êtes là pour ça, machin et tout, les gamins, ils disent, ah, ma mère m'a dit que j'étais en vacances et tout. Donc en fait, tout, on a menti aux gamins. Enfin, je comprends que les gamins, en plus, ils se tiennent bien. Moi, je veux dire, les gamins, ils sont sympas, ils parlent bien. Et moi, je trouve que c'est pas si.
Ils parlent bien.
Non, moi, j'en connais.
Ouais, je suis tout. Alors là, je suis désolée.
Je suis navrée.
Tu parles comme ça avec tes copains, pas de problème. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves.
Mais là, ils parlent avec tes copains.
Avec tes copains, on parle comme on veut avec ses copains. Dans ma classe, aucun élève ne me parle.
Tu dis quoi dans la bouche pour parler?
Non, parce que je leur explique que les codes de langage.
Mais vous comprenez pas
qu'on ne doit pas encourager les gamins à parler comme ça. On doit leur expliquer qu'au contraire, il y a les codes pour les copains, et c'est normal. Tu parles avec tes copains comme tu veux, mais il y a un code pour quand tu es dans la société. Parce que quand demain tu vas chercher un boulot, tu vas pas chercher un boulot chez tes copains. Tu vas chercher un boulot chez des gens qui s'expriment correctement et qui articulent.
En tout cas, pas impressionné par le Premier ministre.
Et qui articulent quand il parle. Je suis désolée, quand tu parles, tu articules. Moi, je suis désolée. Non, ils n'ont pas parlé normalement au Premier ministre. Ils ont parlé dans leur langage où j'ai de la gadoue dans la bouche. Ben, je suis désolée, non. On ne parle pas comme ça. Et à l'école, on ne devrait pas les laisser parler comme ça. Moi, je suis désolée, un élève, il vient faire un exposé, il ne va pas me parler comme ça. Il articule, et je peux te dire, ils articulent très bien, les élèves.
Un arbitre.
Les élèves, ils articulent très bien. Quand ils le veulent, ils le font très bien.
Mehdi.
La première chose qui m'a un peu interpellé, c'est déjà la tenue.
Ils sont tous en survêt.
Ils sont tous en survêt et en basket.
Oui, mais c'est
C'est survêt de l'école.
De l'internat. Oui,
d'accord. Ouais,
c'est bizarre. C'est leur tenue tous les jours.
Voilà. Excuse-moi, mais tu ramènes des gosses qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de comportement, ou à qui tu veux donner une nouvelle direction, une nouvelle perspective. Que tu sors de leur cocon familial pour leur donner des nouvelles bases. Donc déjà, tu reçois des représentants nationaux, tu reçois des ministres, tu reçois le Premier ministre, une tenue élégante et normalement, c'est le béaba. Tu mets pas des gamins, même si c'est le jogging de l'internat, tu les mets pas en survêtement et en basket Nike araignée devant ministre de la justice, premier ministre et il y a un minimum, voilà. Déjà ça c'est juste pour dire bonjour, d'accord. Ensuite je suis d'accord pour la libre antenne et pour que les gamins disent ce qu'ils veulent, mais je sais pas comment un enfant peut dire à un premier ministre à la première journée, parce que c'est la première journée hier.
La première minute.
La première minute, c'est leur première journée. Ouais, ici, il n'y a rien à faire.
Parce qu'ils savaient connaître.
Ah ouais, mais tu ne peux pas dire.
C'est organisé, en fait.
Voilà, je crois que c'est mal organisé.
C'est mal organisé, exactement. Oui. Moi, je pense qu'il y a un manque criant d'organisation et de communication. Et qu'à vouloir faire trop de communication, bah, justement, c'est l'effet inverse. Et je pense que cette image là où vous voyez des gamins tout en survêtement autour d'un premier ministre et qui te dit comme quoi c'est pour le renouveau de la jeunesse française, eh ben c'est contre-productif, tout simplement.
Ah, je crois que quand les gens regardent, excusez-moi, mais moi ça me fait de la peine pour ces jeunes et pour tous les autres aussi, parce que vu l'état de l'opinion, moi je me dis c'est vraiment pas bon ce genre de communication, et c'est pour ça que les ricanements de monsieur Dupond-Moretti, de madame Agresti-Roubache m'ont considérablement agacé, parce qu'ils se rendent pas compte, ces gens-là, que par leur attitude, ils ont stigmatisé aussi ces gamins.
Est-ce que l'internat, au-delà de cette opération com que vous dites ratée, est-ce que l'internat, c'est pas quand même une solution pour notamment sortir ces jeunes qui sont pas perdus, parce que c'est bon, on voit bien, c'est des gamins, de les sortir de leur mauvaise fréquentation, de peut-être aussi de parents qui sont soit débordés, soit démissionnaires, soit je ne sais, soit pas là, et peut-être que ces internats éducatifs avec un encadrement, des
l'internat
horaires,
de Mehdi Guézard et Barbara Lefebvre peut-être.
Mais ces internats, je regardais quand même, t'as des horaires, t'as des levées de drapeaux,
Le
problème, c'est que
atelier estime de soi. Ouais. Okay. Bon, visite
les
du camp des portés
de
discussion sur les addictions aux écrans, sortie en bord de mer pour leur donner un bol d'air frais. Bon, je sais pas.
Oui, mais parce que ça, là je pense que c'est pas un bon exemple, parce que c'est des trucs pour les vacances.
Ah. Bah oui.
L'idéal, c'est de l'internat pour l'année scolaire.
J'étais en internat. J'ai fait de l'internat. Voilà. Et je peux te dire, j'étais dans un internat restrictif. C'était un truc il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de filles, c'était pas mixte. C'était une école catho, c'est pas si Buzenval. En haut de Rueil-Malmaison, je peux te dire, c'est quand même pas la plus tendre. Et c'était mal hyper sérieux. Hein. Je peux te dire, t'avais. Non, mais c'était hardcore.
Syndicaliste, et c'est moi après le bobo.
D'ailleurs,
c'est
moi, bonjour, Mehdi, moi, je suis resté dans ma ligne. Au bout de 4 mois, ils m'ont viré. Je peux te garantir que le 20 décembre, quand ma mère.
Ça n'a servi à rien.
Ah, ouais. Non, mais si, parce que quand ma mère était convoquée le 20 décembre par le frère, parce que c'était un frère qui nous gérait, pour me fumer et dire un machin, j'en veux plus et tout, faut l'envoyer dans une boîte à bac à Boulogne. Je peux dire, copain, que les vacances derrière et le Noël, ça n'a pas été. Pour Noël, j'ai dû avoir une orange et encore, je dois avoir que la peau. Hein. Ça a été, je me suis fait fumer de ouf. Et parce que,
on n'est pas obligé de passer directement au pensionnat des frères où on va se faire tabasser.
On va en parler avec Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour à toutes et à tous, les GG.
Thierry.
Merci de me recevoir. Et un bonjour particulier à Barbara et Mehdi. Bien entendu, l'autre personne, je l'apprécie aussi. Mais voilà.
Merci Thierry.
C'est pas grave, Thierry.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette séquence et de l'internat, alors?
Moi, je vais vous dire une chose, j'incrimine pas les jeunes. Je suis choqué par le comportement de nos ministres. Ça, je suis choqué. Je suis choqué de cette scène-là. Moi, j'estime que c'est pas leur place. C'est pas leur place. Moi, je suis un enfant de la DAS. J'ai bientôt 60 ans. J'ai été mis à la DAS à 6 mois. Dans une famille, dans une ferme, dans le Morvan. Vous imaginez l'époque? Vous imaginez ce qu'on a vécu, nous? Eh bien, c'est pas pour autant, mais on nous a appris des bases. Et si j'étais revenu, moi, avec une punition d'un prof, j'aurais eu la double. J'aurais eu le double chez moi. C'était comme ça.
Mais est-ce que l'internat est une solution?
Non, l'internat n'est pas la solution. Il faut redonner le pouvoir aux professeurs. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre. C'est comme ça qu'il faut prendre la base. La base, elle est là. réapprendre à ce que quand un prof rentre dans une salle, on se lève, on le respecte.
Oui.
Le prof, c'est sacré. Le prof, il amène le savoir, il vous amène les choses. Moi, j'ai fait les lycées professionnels dans les années 80. Au début, début 80. Nous étions 35 élèves, 33 garçons. Nous avions des femmes profs qui avaient quoi ? À peine 30 ans. Jamais, vous m'entendez ? Jamais je n'ai vu un mec mal se comporter. Il y avait un petit peu de chahut, un petit truc, mais jamais j'ai entendu une seule insulte. Jamais on serait permis ça. Jamais. La base, elle est là. La base,
oui, mais la base, elle est apprise ailleurs, puisque
à la maison.
Elle est à base. Bah si.
Oui, le respect des femmes, ça s'apprend à la maison, c'est vrai.
Oui, ça s'apprend pas à l'école.
C'est vrai que c'est bizarre que le respect des femmes professeurs, puisque ce métier s'est beaucoup féminisé, vrai que c'est très remarquable le manque de respect de certains à notre égard, et spécifiquement parce qu'on est des femmes, je le reconnais. Oui.
Et pourquoi Mais Thierry, pourquoi vous reprochez aux adultes leur attitude, là, dites-moi.
Quand on est ministre, mais c'est à désespérer de ces gens-là. Ils ne font que de la communication, et j'écoutais avec attention Mehdi et Barbara, ainsi que monsieur, mais ils sont là pour faire de la com. Les gamins, ils viennent d'arriver. Il fallait...
Une journée.
Comment dirais-je ?
Oui,
une journée. Ça ferait 6 mois que ça existerait pour faire un point, un bilan.
Oui, bien sûr, ça aurait été plus intéressant d'ailleurs.
Beaucoup plus intelligent.
Oui.
Mais là, ils se comportent. Vous avez le gardien Sceaux qui ricane. Vous avez l'autre ministre, elle est tout en train de hocher la tête. Là, elle ricane. Mais c'est raté.
Il aurait fallu aller dans un internat qui accueille toute l'année des mômes, voir préciser avec ces mômes, voir alors qu'est-ce que tu as appris, etc. Et là, ça aurait fait une bonne publicité, parce que là, ça donne pas envie d'envoyer des enfants. Hein.
De toute façon, je vais vous dire, ce gouvernement macronien, je pense que le prochain gouvernement, je sais pas qui va gagner en 2027, mais je pense qu'ils ont plus qu'à prendre la liste de tous les trucs de com et de faire tout le contraire, parce qu'en com, ils ont été nuls depuis 2017. C'est une derrière eux.
Gabriel Attal est plutôt bon.
Mais Gabriel Attal tout seul, mais qui est allé lui dire, si ça se trouve, on lui a dit viens, on va aller dans un internat, c'est super. Il peut pas tout vérifier, Gabriel Attal. Il est déjà en train de tout faire, il parle de tout le temps lui aussi.
Peut-être qu'il voulait un
Il s'est dit, ça doit être bien, il est allé, puis voilà, résultat. Bravo.
Thierry, je vous remercie. Thierry, affligé par l'attitude des adultes.
Merci, Thierry.
Internat, est-ce que c'est la solution anti-délinquance ? Que pensez-vous de cette séquence hier avec ces jeunes ? On continue d'en discuter avec vous au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story 32-16 pour discuter, pour débattre avec les grandes gueules. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble encore, un petit quart d'heure à discuter de ces internats que le gouvernement veut mettre en place pour lutter contre la délinquance. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de connaître aussi le profil de ces jeunes. Parce qu'il y en a un, je sais qu'un petit peu plus loin dans la discussion, il dit ouais, ma mère m'a forcé à venir, mais moi j'aurais préféré rester dehors avec mes copains. Mais est-ce qu'on a affaire à des petits délinquants ou est-ce qu'on a affaire à des jeunes qui sont pas forcément, tu vois, dans la délinquance juvénile et dont les parents ont dit va à l'internat peut-être, ça sera bien pour toi.
Je pense que c'est quand même des familles qui ont dû être démarchées, parce que c'est peut-être des élèves qui ont des problèmes à l'école, qui ont été signalés par l'institution scolaire.
On n'est pas dans de la graine de violence, peut-être pas.
Apparemment pas. En tout cas, je connais pas. Non, mais ça, on ne sait pas.
En tout cas,
mais à mon avis, ils ont été quand même signalés par un corps institutionnel, que ce soit la police, peut-être la PJJ, mais pour des choses peu graves. Peut-être que la police municipale et l'institution scolaire ont signalé aux parents, et que les parents se sont dit, bah oui, bonne idée pour les vacances, tiens, ils vont aller faire un petit stage.
Il y avait 4 ministres hein, quand même dépêchés. Hein. Il y avait aussi
Éric Ciotti,
Sarah El-Haïry,
qui jette l'opprobre. Et on a 4 ministres. C'est ce qu'elle a dit, elle jette l'opprobre.
Oui, au lieu de l'opprobre, elle avait dit l'opprobre.
Dommage, j'ai vu cette séquence à l'Assemblée. Non, mais officiellement, l'Assemblée, dans une réponse, a dit vous jetez l'opprobre. Bon, je sais pas ce qu'elle
parle. C'est génial, c'est pas vrai.
Si.
Elle fait partie des 10% qui ont des problèmes avec l'écrit. Et l'oral aussi. Hein, parce que là...
Mais donc, 4 ministres pour ce déplacement.
Et comme Eric Stéphane Séjourné.
Écrit sur Estrosi.
Nous sommes avec Ahmed. L'amour bonjour, Ahmed.
Oui, bonjour.
Bienvenue, responsable de centre. Qu'est-ce que vous pensez de la séquence que vous avez vue ? Est-ce que ces internats, c'est la solution ? Alors, dites-nous.
Je viens juste de l'écouter donc, à votre antenne quand je suis rentré dans ma voiture. Donc là, je suis dans un parking. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis simplement que c'est pas la solution, mais c'est une des solutions, effectivement, pour pouvoir aider certains jeunes et pour pouvoir sortir de la délinquance. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, ça fait 30 ans que je travaille dans la protection de l'enfance.
Ouais.
J'ai été éducateur spécialisé dans une maison d'enfants à caractère social, donc je suis responsable d'un service médico-social. Et effectivement, donc il suffit que nous, pour nous, en tout cas parmi les jeunes qu'on accueille en internat, il suffit qu'il y en ait un ou deux, qu'on arrive justement à pouvoir sortir de là, ben déjà c'est quand même gagné. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y en a aucun qu'on va pouvoir aider. Donc c'est juste pour ça, voilà. Je voulais juste témoigner pour ça. Effectivement, c'est peut-être pas la solution, l'unique solution, mais c'est l'une des solutions qui peut en tout cas favoriser à sortir de là.
Y a-t-il de plus en plus de jeunes entre 11, 12, 13 ans qui ont des problèmes aujourd'hui et qu'il faut reprendre en main?
Il y en a. Alors je dis pas qu'il y en a énormément, mais il y en a de plus en plus. Donc moi je vous dis, ça fait 30 ans. Donc voilà, donc c'est au début c'était peut-être ils étaient un peu plus âgés. Moi quand j'ai démarré, quand j'avais 22 ans, j'avais des jeunes, la majorité des jeunes entre guillemets, ils avaient entre 16 et 18 ans, et voire même des jeunes majeurs puisqu'on les prend jusqu'à 21 ans.
Et maintenant ils sont plus jeunes.
Ils sont beaucoup plus jeunes. Ça va même. Alors, je ne vais pas dire de 10 ans, je ne vais pas généraliser. Mais effectivement, entre 10
et 11
ans.
Ce qui frappe dans les derniers faits divers, c'est à la fois l'âge et la violence aussi. C'est-à-dire qu'ils sont très jeunes et ultra violents pour certains. C'est une minorité, mais c'est les deux choses qui choquent.
Voilà, c'est ça. Après, la violence est aussi à mesurer. C'est ce qu'ils rencontrent, en tout cas à l'extérieur. C'est ce qui va aussi. Alors, nous, on se bat beaucoup par rapport aux écrans. Effectivement, c'est ça aussi qui génère un peu cette incompréhension. Oui. Alors, jeux vidéo, ça peut être aussi YouTube et des choses comme ça. Hein.
Voilà. TikTok, c'est où? C'est-à-dire que l'accès à des images violentes. Et
surtout WhatsApp aussi, parce qu'ils s'échangent maintenant. Ils font des groupes, ils font des vidéos. C'est à celui qui va faire le plus de buzz. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ne serait-ce que la violence verbale. Et ça, déjà, il faut démarrer par ça. Ne serait-ce que par rapport à l'autorité, par rapport à.
Oui, mais ça, c'est pas les jeux vidéo, l'autorité.
Ahmed, vous qui étiez éducateur sportif, à quel âge
Non, il est spécialisé, pas sportif. Mais je suis à côté spécialisé. Aussi à un entraîneur. Mais
d'accord. Les gamins que vous voyez dehors, ils avaient quel âge que vous voyez traîner dehors comme ça le soir et on en a parlé en début d'émission par rapport à la non-responsabilité des parents.
Oui, alors, moi je suis maintenant responsable. Je ne suis pas tout à fait, quand je dis pas tout à fait sur le terrain, je ne suis pas à l'extérieur. Par contre, j'encadre des équipes qui vont aussi à l'extérieur. Mais je travaille beaucoup en partenariat avec surtout les services de prévention qui, eux, peut-être pourront vraiment vous répondre à cette question-là. Mais effectivement, alors moi, nous, on a eu des jeunes qu'on a suivis entre 12 et 16 ans.
Après, ils étaient dehors, peu importe l'heure, le soir, sans autorité parentale.
Alors ça, c'est ce qu'on nous renvoyait, oui. Alors par contre, nous, ce qu'on a en internat, effectivement, c'est très rare, une fois. C'est pour ça que le reportage que vous avez fait entendre, j'écoutais que la fin. Effectivement, ça faisait qu'un ou deux jours qu'ils étaient là. Nous, quand on reçoit des jeunes ou même dans des foyers de l'enfance en urgence, au bout d'un jour, deux jours, il y a beaucoup de fugues au départ. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués au rythme de vie. Ils ne sont pas habitués à l'autorité et tout ça. Donc effectivement, après, au bout d'un mois, deux mois, on commence à faire un travail avec eux. Et le travail paye. Hein. Quoi qu'il arrive, le travail paye. Parce que souvent, moi, je dis aux jeunes, c'est pas maintenant que peut-être que tu... C'est pas une déclic qu'ils vont avoir. C'est au bout d'un certain temps qu'ils arrivent à pouvoir réaliser, et même des fois adultes. Moi, j'ai gardé des contacts avec des jeunes que j'ai suivis il y a 20 ans, il y a 15 ans, et qui maintenant, je dis pas s'en sortent très bien, mais qui s'en sortent. Et on continue à avoir des contacts, ne serait-ce que pour les aider, même quand ils sont adultes. Parce que c'est pas terminé.
Ahmed, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage, Ahmed Dugard. On va aller dans le Val d'Oise, écouter Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Parce que vous êtes passée par les internats.
Oui, j'ai été en internat pendant 4 ans.
Parce que vous étiez une enfant ou une ado difficile et il fallait pas vous mettre en internat. Ah non, d'accord.
Non, justement, c'est pour ça que le titre me gêne quand vous dites internat solution anti-délinquance.
Oui.
Ça donne une espèce de connotation négative. Donc, l'internat, c'est pas une solution anti-délinquance. Pour moi, l'internat, à la base, c'est une école où on est là-bas pour travailler, on a envie, on est motivé, on apprend certaines choses. Moi, j'ai été en internat parce que voilà, il y avait des difficultés plutôt pas familiales, mais moi j'habitais dans des conditions un petit peu compliquées. J'habitais dans un tout petit studio, c'était très compliqué. Quand j'étais en internat, c'était plutôt des élèves. Effectivement, certains avaient peut-être des problèmes de délinquance, mais c'était beaucoup des gens qui se retrouvaient dans des milieux avec leurs problèmes familiaux, sociaux, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, là, l'internat, c'est pas une solution.
Donc en fait, il faut pas faire la confusion entre internat et maison de correction.
Exactement. Comme on les appelait avant. Quand je vois comme ça, j'ai l'impression de voir que c'est une maison de correction, mais c'est pas ça le but d'un internat.
D'accord. Mais Sabrina, excusez-moi, mais quand c'est très intéressant, mais quand les personnes justement où l'autorité parentale est manquante et que ces enfants sont envoyés dans des internats. on est bien d'accord que ça leur donne quand même une assise, ça leur donne un cadre, ça leur donne une sorte de relais de maison qu'ils n'ont pas chez eux, parce que leurs parents sont aux abonnés absents. Pour certains, on ne fait pas une généralité, Sabrina, mais ça peut servir à beaucoup de gamins d'être suivis par des éducateurs pendant toute la journée et toute une partie de la soirée. Je préfère des gamins soient en internat, le soir dans quelque chose de fermé et de surveillé, que en bas de leur immeuble sans
surveillance. Mais un internat, c'est pas ça. Mais dit dans un internat comme là où est allée Sabrina, c'est un internat où elle venait pour travailler. Donc t'as les enseignements.
Ces gamins aussi, ils vont
t'as les
travailler.
Enseignements la journée, le soir t'as des encadrants.
Oui, c'est des.
T'as des encadrants. Qui sont des éducateurs. Oui, non, mais c'est pas des gens qui vont t'éduquer à t'apprendre à te tenir bien, à pas parler.
Déjà,
à
ne pas faire de conneries.
Non, mais j'arrive pas.
Non, je veux juste expliquer ce que c'est la structure d'un internat. Mais Sabrina, vous pouvez l'expliquer juste. Là, ce dont ces jeunes ont besoin, c'est d'internats adaptés. D'internat avec des éducateurs hyper formés qui sont à la limite, excuse-moi, de la discipline militaire.
Je vais aller contre ton avis. Moi, je pense qu'une partie des jeunes, ce qu'ils ont besoin déjà, c'est de sortir de leur.
Tu ne dois pas les mettre avec Sabrina qui a été bien élevée, excuse-moi. Tu vas aller foutre en l'air les internats. Voilà.
Donc on les laisse tous sur les parcs chez eux, entre eux,
mais ils restent
entre eux.
Non,
mais c'est ce que tu veux.
Tu verras les gens mettre.
Mais t'as entendu ce que tu dis. On les mélange pas. On les mélange pas.
Tu sais ce qui se passera, Mehdi ? C'est que les gens feront comme le collège public. Les gens. Arrête de répéter
Ben si. Oui, parce que tu dis quelque chose. Et parce que tu le dis, tu crois que c'est la vérité.
Non.
Attendez, Sabrina.
Il se passera ce qui s'est passé dans les collèges publics. Les gens fuiront dans les établissements privés.
Non, mais moi, je suis d'accord avec tous les deux, en fait. Je suis pas d'accord avec Mehdi, c'est quand vous dites qu'il faut un espèce de recadrement, parce qu'effectivement, à la maison, ils n'ont pas ça. Mais ce n'est pas le rôle que de l'internat. On n'est pas là-bas que pour le comportement. Il y a aussi l'école. Oui. Si vous ramenez des élèves où il faut juste leur apprendre, leur inculquer le bon comportement, mais qu'à l'école, il ne fait rien, moi, je suis désolée. Quand j'étais en internat, j'ai cours de 8h30 à 17h.
Ben voilà.
Donc l'éducateur, il est là juste pour nous réveiller le matin, pour nous dire dépêchez-vous, prenez votre douche et le soir.
Peut-être qu'il faut d'autres structures pour ces jeunes,
voilà,
des structurés.
Il faut des internats adaptés.
Exactement. Donc après, je ne dis pas que ces enfants-là, il ne faut pas les accompagner. Bien évidemment, tu peux les accompagner, il ne faut personne les laisser. Mais effectivement, là, la solution proposée...
Militaire, quoi,
exactement. Voilà. Mais tu ne vas pas mettre ces gamins-là dans un internat lambda.
Juste peut-être les sortir du marasme dans lequel ils sont, dans les familles dans lesquelles ils sont peut-être.
Oui, bien sûr, après l'internat, ça fera la rapport.
Barbara, après on verra. Juste une phrase, t'as vu, en trois heures, laisse-moi juste finir une phrase complètement. Et après, peut-être que je pourrais répondre, d'accord.
Je me dis, je suis en train de pleurer.
À un moment, voilà, il faut juste sortir les gamins
du contexte
de merde dans lequel ils sont.
Ok, toi, quand tu mettras ton enfant en internat et que tout d'un coup déboulera trois ou quatre de ce genre-là dans la classe de ton fils, on verra si tu le laisseras à l'internat.
Mais en fait, c'est complètement.
Non, je t'explique.
Tu es à côté de la plaque.
Je t'explique, mais je t'ai pas parlé de toi, je te donne un exemple. Quand tu mets ton enfant en internat, t'as un projet scolaire en général. 80% des gamins qui sont en internat, c'est pour un projet scolaire. C'est pas pour un projet de redressement éducatif.
Merci,
donc
Sabrina.
Tu vas pas les mélanger avec ceux-là.
Alors, les internats, est-ce que c'est la solution anti-délinquance? On a posé la question. Merci à Ahmed et à Sabrina avec deux témoignages. Non.
C'est partagé.
Non, 55%. Ah, ça me dit que c'était pas la bonne. J'ai même pas eu le temps de voir. J'ai juste regardé le graphique.
C'est 44, non 55 et quelques.
Voilà.
Bon, ben voilà.
Donc c'est partagé.
On me dit que c'était pas la bonne dans l'oreillette.
C'est pas grave.
On se retrouve demain. Demain, Elina Dumont, intervenante sociale, Zora Bitté, en cadre de la fonction publique, Didier Giraud, agriculteur. Bonjour Estelle Denis.
Elle est belle en vert.
Salut Alain, salut les GG.
Oui, c'est. Tu as fini de faire des trucages sur ta combi là.
C'est pour que le truquiste s'en donne à cœur joie. Écoutez, on va continuer à parler de cette visite de Gabriel Attal dans l'internat. Nous, il y a un truc qui nous a beaucoup étonné. C'est que Gabriel Attal tutoie notamment les lycéens et puis les questions des lycéens quand même. Est-ce que vous êtes riche? Macron, il est méchant? Ben voilà. Est-ce que cette visite pour vous est synonyme de fiasco? On en parle dans un instant.
Ils étaient à Nice, hein. Faut pas s'attendre à mieux, quand même.
Comment?
Ils étaient à Nice. Il faut peut-être pas s'attendre à mieux quand même.
Et bam pour Alain Marchal.
On parlera également à 13h des faillites de sociétés qui augmentent fortement en France. Êtes-vous inquiet pour nos entreprises? Et puis enfin, une taxe de 5 euros pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faut faire payer l'entrée des villes touristiques?
Très bien.
Pour limiter leur
Vierzon,
fréquentation.
Ah oui,
Vierzon, ils payent pour que les gens viennent.
Pour qu'ils restent.
Pour les amis, ne soyez pas jaloux. Estelle.
Bonne émission avec Estelle.
Bonne émission.
32-16 pour débattre et à demain 9h.